un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ils ont débarqué dans les cortèges des manifs contre la réforme des retraites et la foule, habituée à conspuer la police au cri de « tout le monde déteste la police », s'est trouvée prise d'un élan d'amour pour ces quelques centaines de pompiers en grève. Pendant ce temps, leurs collègues, tout aussi héroïques, éteignaient les feux de poubelle, les flammes de la rotonde, sauvaient des personnes âgées tombées de leur lit, des accidentés de la route, fonçaient vers des accouchements, des chats perchés, des maquis en feu, des nids de frelons. Tout le monde a besoin des pompiers. Aujourd'hui, dans les pieds sur terre, sans oublier toutefois les affaires d'homophobie et de sexisme chez les pompiers qui ont fait la une des journaux et le quotidien de victimes traumatisées, les bizutages et leur culture viriliste, on s'intéresse à ce qui se passe le jour où la coupe des pompiers est pleine, le jour de l'intervention de trop, celle qui marque, qui dure, qui blesse et dont on ne se remet pas. Je précise que cet épisode contient certaines scènes assez violentes, notamment le récit d'un accident de voiture, qui peuvent être difficiles à écouter. Éric et Stéphane sont des pompiers chevronnés, atteints de stress post-traumatique. Ils racontent leur parcours au micro d'Antoine Guirimand.
Je m'appelle Éric. Je vais sur ma 55e année et je suis papa de 3 enfants, 21, 18 et 11 ans. Donc après un parcours dans l'armée, je me suis orienté dans le civil, chez les sapeurs-pompiers, sur la commune de Sète dans l'Hérault. Pourquoi j'ai fait pompier? C'est parce que, après mon expérience militaire qui a été quand même engagée, j'ai intégré une unité commando parachutiste. Et je me suis dit que je pouvais me rendre plus utile chez les pompiers. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et ça a été une découverte, un coup de cœur. Voilà. J'étais très, très fier de pouvoir porter les armoiries de la ville de Sète et de pouvoir embarquer avec ces gars dans les camions pour aller, chaque fois qu'il y avait une intervention, apporter assistance à la population, que ce soit un incendie ou un secours à personne. J'étais vraiment très, très, très fier de ça. Il y a des interventions qui m'ont marqué. Quand il y a un gros feu en pleine nuit, puis qu'il y a des sauvetages qui sont effectués pour sortir des gens d'un appartement où ça brûle. Quand tout se passe bien, voilà, c'est vraiment le nectar de gratitude qu'on peut avoir en retour, de dire ben, ce soir je suis rentré à la maison, et en restant humble, mais aujourd'hui j'ai contribué à sauver une vie. Donc avant le 22 mai 2017, ça commence à faire un moment que je suis au pompier. Je suis toujours adjudant chef. En fait, cette journée, elle a commencé comme toutes les matins de garde, avec une belle journée sur Sète, un soleil qui montait déjà très clair, pas beaucoup de vent. La journée s'est déroulée comme les autres gardes, avec les ambulances qui rentraient, qui sortaient, pour des interventions classiques. Et puis, j'ai été déclenché donc sur Sète. Quand je prends l'appel, on me dit « tu vas rejoindre l'intervention là-bas ». J'imagine que les collègues sont déjà sur place. Moi, je prends la route. Le truc, c'est que je suis vraiment pas loin, quoi. Et que très, très rapidement, en fait, j'arrive sur zone. C'est 5h du soir, il y a vraiment beaucoup de monde sur la route. Donc, j'arrive à me faufiler avec le pimpon assez facilement. Et puis, je me rends compte que en fait, il n'y a personne sur place. Je me retrouve primo-intervenant, tout seul, à faire du prompt secours. C'est vraiment la médecine de guerre, quoi. Enfin, il respire pas, je le mets en PLS, je le mets pas en PLS, ça saigne, je mets ma main, et puis l'intervention commence là. Donc c'est une voiture familiale qui vient de prendre un poids lourd en face à face. Sous l'impact, la roue avant du poids lourd a reculé d'un mètre cinquante. La cabine, elle est presque posée par terre comme si elle était à genoux. Et j'aborde le véhicule qui est vraiment écrasé. J'ai tellement écrasé ce véhicule que j'arrive pas à voir en fait ce que c'est comme voiture. Donc je me rends rapidement compte que les personnes à l'avant sont incarcérées, donc coincées complètement, et une qui est décédée déjà. Et puis, sur la partie arrière du véhicule, il y a des gens qui sont allongés les uns sur les autres, en fait. Et en regardant rapidement, je me rends compte qu'il y a deux sièges enfants. Un siège qui est sur la banquette arrière, derrière le conducteur, et un siège bébé qui est sur le troisième rang derrière, mais qui est vide. Et puis derrière, voilà, c'est des dames qui sont là, elles ont des cheveux longs, et elles sont les unes sur les autres, et du coup, je n'arrive pas à savoir comment ils sont là-dedans, en fait. Au final, ils seront six. Et au fond, là, je regarde, en fait, je me rends compte que entre les jambes de la dame qui est au milieu, en fait, il y a deux petites jambes qui sortent. Au début, je crois que c'est un jouet. Et en fait, je me rends compte que c'est un bébé. Donc, je priorise le bébé. Je peux pas ouvrir la portière, donc je finis de casser la fenêtre. Je m'allonge sur les corps, je rampe dans la voiture un petit peu pour aller chercher ce bébé. Et là, je me rends compte qu'en fait, son cœur bat pas. Et je commence à faire un massage cardiaque sur le bébé. Je fais du bouche à nez, donc c'est pour lui donner de l'air par le nez, parce qu'elle est toute petite encore, elle a que 3 mois. Il y a un collègue qui arrive, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que lui aussi, il croit que c'est un bébé en plastique que j'ai dans les mains. Et je me rends compte qu'en fait, elle est décédée, quoi. Du coup, je vais cacher ce petit corps, parce que je sais que les collègues qui vont arriver, ils vont être confrontés à ça, et je veux pas qu'ils la voient. Et rapidement, donc je la mets dans ma voiture, je mets ma veste de feu par-dessus, je la pose dans mon 4x4 qui est là. Et rapidement, je retourne dans la voiture, et là, je force, et puis j'arrive à ouvrir la voiture. Et je dégage donc la première victime qui est sur le côté, qui est la maman, qui respire très très mal, mais qui respire encore. Je la sors de là, je la tire sur 20 mètres, et là, je la donne à mon collègue, je dis, on la met en PLS, et j'ai dit, surveille-la. Je retourne dans le véhicule, je coupe la ceinture, et là, je relève, et la dame, au milieu, c'est la grand-mère, en fait. Elle est sur moi, sa tête est dans mon cou pendant que je finis de la dégager, et je sens, en fait, au moment où elle soufflait dans mon cou, j'ai senti ce râle. J'ai compris qu'elle arrêtait de respirer à ce moment-là. Mon collègue, après, comme la maman était en PLS et qu'on pouvait rien faire d'autre tant que les véhicules n'étaient pas là, il est arrivé, il a pris le relais sur la grand-mère. J'ai dit, il faut que j'aille chercher ce gamin qui reste dans ce fauteuil là-bas. Et je suis rentré dans la voiture et je suis allé au contact de ce petit tout qui était complètement là-dedans, quoi, écrasé entre sa coque en plastique et puis le véhicule qui l'enfermait autour. Et là, ça a commencé à arriver. Et les véhicules ont réussi à se frayer des chemins, les ambulances sont arrivées par paquets, les moyens de désincarcération pour découper la voiture aussi. Mais moi, j'ai pas entendu les sirènes, j'ai rien entendu de tout ça. Et ce petit tout, c'est le seul qui a survécu à l'accident. Quand l'intervention se termine pour nous, en fait, ils ont conscience qu'il se passe quelque chose quand même à la chaîne de commandement, et ils font venir des médecins pour faire ce qu'on a fait, un defusing. Donc on se réunit à la caserne de Frontignan, et là on a deux médecins pompiers qui nous disent, bon voilà, il se passait ça, etc. Ils nous proposent de parler, quoi. Et moi, je suis dans mon rôle de chef de garde. Je dis, on n'a pas le temps de faire ça maintenant, là. On vient de se taper 5 morts, là. Ils nous font chier avec leurs histoires, là. Là, il faut qu'on rentre, qu'on remette les camions en ordre, qu'on nettoie tout. Il y avait du sang partout dans les ambulances. Il faut qu'on remette tout sur pied, parce que s'il y a notre départ, on n'a personne, quoi, sur le secteur, et ça va être la misère, quoi. Donc, moi, j'abrège ce moment, et ils me laissent partir. Hein, et puis, je rentre à la caserne pour réarmer les camions, m'occuper des gars. Voilà, la garde continue comme ça. On ne dort pas beaucoup cette nuit-là. Voilà, et moi, jusque-là, en fait, je tiens... sans trop me rendre compte, en fait, que j'ai été impacté à ce point. Et c'est en partant de la caserne que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. En me déshabillant, en fait. Et je vois que mon pantalon est plein de sang, que j'ai encore du verre de pare-brise sur mes affaires. Et puis, je suis allé prendre ma douche, je me suis habillé en civil. Et là, j'ai senti qu'il commençait à avoir c'était un peu trouble, en fait. Je mets ça sur la fatigue. Je rentre dans ma voiture, je n'arrive pas à démarrer, je comprends pas comment je mets les vitesses. C'est une voiture automatique. Ça buguait, quoi. Mais bon, je me dis, c'est la fatigue, l'émotion. Je rentre à la maison, je vois ma femme, mes enfants sont là. Je me lave les mains, je laisse l'eau couler au robinet. J'ouvre le frigo, je laisse la porte ouverte. Je dis au revoir à ma fille, qui part à l'école, avec le bus. 5 minutes après, je vais la chercher dans sa chambre, je la cherche partout dans la maison, parce que je dis, elle va rater l'école. Je me rappelle plus qu'elle est partie. Et là, tout le monde s'en va, en fait, et je reste à la maison. Voilà, et puis du coup, la journée, elle est passée. J'ai senti qu'il y avait un problème, en fait. Je n'arrivais pas à savoir quel jour j'étais, quelle heure c'était. Donc, des formations professionnelles, en fait, je commence à me bilanter. Donc, je me prends ma tension. Ma saturation d'oxygène est normale, ma tension, je suis fatigué, le pouls un peu accéléré. Je me dis, ben, peut-être t'es en train de faire un petit AVC, le coup de fatigue, le coup de nerf que t'as pris hier. Bon, j'y prends de l'aspirine, calme-toi, mets-toi sur ton canapé. Mais en fait, je sens qu'il y a un truc qui va pas, que je suis à côté de la plaque. Puis ma femme revient à midi, et puis là, elle voit l'eau qui coule, le frigo ouvert, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Enfin, du coup, elle va pas travailler l'après-midi. Et là, il y a eu vraiment une décompensation. Vendredi, samedi, dimanche, où tout s'effondre, en fait. Mais je pourrais pas remettre les choses dans l'ordre parce que vraiment, c'est un trou noir, en fait, c'est ce qui se passe. Et le lundi matin, en fait, j'appelle la caserne, je dis ça va pas du tout, il faudrait que je voie quelqu'un parce que je suis conscient de mon état. Du coup, ils mettent en place la cellule médico-psychologique. Et là, quand ça arrive mon tour, ben, je leur dis aux gars, bon, écoutez, je sais pas ce qui se passe, hein, mais je sens plus rien, je suis décalé complètement, je sais pas comment fonctionne ma télé, j'ai du mal à démarrer ma voiture, des gestes simples, je me perds. Donc ils se regardent, ils me disent, bon, écoute, c'est quoi, demain matin, tu vas être pris en charge aux urgences post-psychiatriques au CHU de Montpellier. Donc ils ont appelé, et le matin, je me suis présenté là-bas. Bon, moi, je pensais que ça allait tenir. On allait faire 2 entretiens. Ils vont me filer un truc sous la langue, sublingual, là. Un Xanax, tu vas dormir 2 jours et puis ça ira mieux. Voilà. Mais ça s'est pas passé comme ça. Le matin, je me présente là-dedans. Et je me demandais ce que je faisais là. J'étais à 2 doigts de partir, quoi. J'avais une petite complètement anorexique à côté. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? On n'est plus chez les pompiers, on est dans un service d'urgence post-psychiatrique, avec des gens qui ont des maladies mentales. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et moi, je pensais que j'étais indestructible, quoi. Et en fait, non. Non, je suis pas indestructible, je suis un être humain, c'est tout. Et là, je suis arrivé au bout. J'avais plein d'a priori, c'était très péjoratif. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre la femme. Enfin, c'était le docteur, pour le coup, là. Et à la fin, elle me parle du syndrome de stress post-traumatique, et puis elle me dit, vous n'allez pas reprendre de suite, hein, vous allez être arrêté un moment. Enfin, ça va prendre du temps. Il y a les médicaments, il y a la psychologue, et après, il y a le psychiatre que je rencontre tous les 2 mois. Donc, ils me mettent en place un protocole d'urgence qu'ils font aux militaires qui rentrent d'opérations extérieures et qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. Et ça, pendant longtemps, 3 ans au moins, ça a duré. Les 2 premières années, j'étais à côté de la plaque, quoi. Complet. Il y a une hypersensibilité, une hyper-irritabilité, une fatigue accrue. Je faisais mes courses, je voyais un petit dans une poussette qui ressemblait à la petite, que j'ai sorti. Crise de panique, je lâche le chariot, je laisse tout dans le chariot, je me barre, je rentre à la maison, j'ai pas fait les courses. Et en permanence, une odeur, un bruit qui rappelle l'événement, bam, on revient dans l'événement, bam, les images elles reviennent. Et c'est intrusif, et c'est pas contrôlé. C'est un effondrement complet. Il y a eu Eric avant, Eric après. Alors oui, au bout d'un moment, j'aime plus trop que les choses elles évoluent, mais elles évoluent doucement, mais à mon rythme. Physiquement, je me sens plutôt prêt, donc j'essaie de reprendre le travail. Et au final, la reprise s'est faite il y a 6 mois, et donc il y a eu 5 ans d'arrêt en tout, cumulé. J'ai repris quand je suis au boulot, je fais mon boulot, mais c'est n'importe quoi. Je suis pas là en fait, je suis là mais je suis pas là. Et aujourd'hui, j'essaie de le faire encore, mais je sais pas combien de temps ça va tenir, j'en sais rien. Et puis, quand on pose la question, il n'y a pas moyen de s'arranger, de trouver une porte de sortie, personne n'a de réponse, parce que l'administration n'est pas préparée à ça. C'est chez les pompiers, il faut vraiment, vraiment qu'on se penche là-dessus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gars qui sont impactés, qui quittent l'administration. On ne prend pas vraiment en compte l'aspect psychique chez les sapeurs-pompiers. J'ai fait une petite formation qui s'appelle du kintsugi. Et c'est un art japonais où on reconstruit des poteries et qu'on répare avec de l'or. Et il est collé avec de la résine naturelle et à la fin, on passe de la poudre d'or dessus. ce qui met en valeur la blessure et qui remet l'objet donc en service avec son histoire et sa cicatrice. Et du coup, ben, ça m'a fait beaucoup travailler ma concentration. Quelque part, quand je réparais des tasses, ben, je me réparais un peu à moi. Et voilà, s'accepter avec sa cicatrice. Et essayer peut-être de redevenir une œuvre d'art après tout ce qui s'est passé.
Ben bonjour, je m'appelle Stéphane Saison, j'ai 53 ans. Je suis actuellement retraité des sapeurs-pompiers de Paris depuis 2010. Et je suis maintenant actuellement en montage de projet pour ouvrir un futur centre national de prise en charge du stress post-traumatique pour les sapeurs-pompiers. Alors j'ai grandi dans le nord de la France, dans la Somme. Mon papa était sapeur-pompier volontaire, électricien de métier. Et j'ai intégré les jeunes sapeurs-pompiers de ma commune en 1985. Et j'ai intégré la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en septembre 90, début septembre 90. Une fois que j'ai réussi mes 4 mois de formation, j'ai été intégré à la caserne de Ménilmontant dans le 20e arrondissement de Paris, à Saint-Fargeau. Au bout d'un moment, j'ai commencé à fatiguer, parce que c'est quand vous faites 72 heures de garde, même si vous avez 25 ans, ou 27 ans pour moi, le corps, au bout d'un moment, il en a marre, quoi. À pas dormir, c'est pas possible. Donc là, j'arrive à 4 ans, donc on m'a proposé d'être muté, j'ai dit oui. Et quand on m'a dit, bah, t'iras à la 26, t'iras à Aubervilliers. Oh, je connais pas Aubervilliers, c'est quoi ça? Eh ben, c'est, tu vois, c'est bien. Alors, cette nuit du 24 août 2003, elle était, somme toute, comme une nuit normale. C'était un samedi. Moi, j'étais sous-officier au premier secours. On décale vers minuit pour un feu dans un bâtiment. Et au bout, il y avait une voiture, ça doit être une Twingo, je crois, qui brûlait. Donc les gens avaient appelé, pensaient que c'était l'entrepôt qui brûlait, mais en fait, c'était la voiture qui était juste devant. Donc on sort une lance, on éteint la voiture, et à minuit et demi, on est rentré, quoi. Ça reste un feu de voiture banal. Jusqu'à 6 heures où on est reparti à la même adresse, mais cette fois-ci pour feu de garage. Et là, effectivement, c'est plus la voiture, c'était l'entrepôt lui-même qui était la proie des flammes, parce qu'on voyait la fumée. Quand on est sorti de la caserne, on voyait la fumée déjà. Donc je me garde devant pour laisser la place de l'impasse pour l'échelle, pour qu'il puisse lui accéder à la façade. Et puis on s'aperçoit que derrière les portes métalliques, un peu gondolées, il y a une chaîne, un cadenas, et quand on tire un peu dessus, on voit que dedans c'est tout orange, on voit que ça brûle à l'intérieur en fait. Donc on a coupé le cadenas pour attaquer le foyer principal qui était au fond, et regarder dedans s'il trouve une signe de vie, ou s'il voit une silhouette ou quelque chose. Et le chef de garde arrive, je lui rends compte de la situation. Et moi, je m'engage donc avec une deuxième lance, avec une chef d'équipe, côté gauche de l'entrepôt. Et ensuite, il y a quelques morceaux de plafond qui tombent, de plâtre. Moi, j'étais en recul, j'ai l'habitude. Bon, je dis voilà, avec l'expérience, c'est rien, c'est quelques bouts de plâtre, faut pas s'inquiéter. Sauf que, subitement, ça commence à craquer. Donc là, j'ai essayé d'appeler mes collègues qui étaient sur ma droite, en visu, hein, je les voyais, on voyait super bien, il n'y avait pas de fumée à l'intérieur. Je hurlais pour essayer de les faire reculer, je tirais le tuyau, alors ne me demandez pas pourquoi je suis pas allé les chercher. J'avais beau tirer dessus, ils bougeaient pas, ils restaient à leur place. Et donc moi, quand j'ai vu que ça commençait à tomber, c'était plus du plâtre, j'ai attrapé l'épaule de ma chef d'équipe qui était devant, je l'ai tiré, on s'est retourné, on a commencé à courir pour essayer de se sauver, mais on devait être à 5-10 mètres même pas de la sortie, puis subitement ben, ça a craqué et tout s'est effondré à plat. Comme un château, à plat en mille feuilles. Et avec le souffle de l'écrasement à plat, on a été projeté à l'extérieur. Donc moi j'ai roulé, enfin voilà. Et là, je me suis retourné. C'est le tas. Il y avait de la fumée, il y avait plein de poussière. Vous voyez qu'un tas de gravats. qui devait faire je ne sais pas combien de mètres cubes sur 5-10 mètres de haut, je ne sais pas. Je savais que la demoiselle qui était avec moi, elle était sortie parce qu'on était ensemble. Donc moi, si je suis sorti, elle ne devait pas être loin. Mais les autres, quand j'ai vu le tas de gravats, la hauteur, le cubage de gravats, de poutres, je me suis dit, c'est fini. Et là, vous lâchez. Et c'est la première fois que je pleure sur intervention. C'était la première et la seule fois, d'ailleurs. Et là, si le chef de garde ne m'avait pas secoué, il m'a attrapé, il m'a dit « C'est pas le moment, vite, vite, vite !» Et vous secouez la tête, vous reprenez vos esprits, puis il faut avancer, quoi. Ouais, j'ai un peu ramassé, là, j'avoue. Et moi, je voulais pas aller gratter. Je voulais pas aller creuser pour retrouver mes collègues. Ça, je me sentais pas capable de le faire. Et ma collègue, elle était bloquée contre une voiture. Et elle a reçu la poutre qui a endommagé une vertèbre, en fait. Moi, physiquement, zéro. Rien. Et ensuite, ils ont trouvé mon collègue. Quand il sort, il est conscient. Et puis, il a été pris en charge par les médecins. Il a été transporté en hélicoptère à l'hôpital Percy, où il est resté un an. Le quatrième était sorti pas loin d'une heure après, il me semble. Il était coincé sous une poutre tout au fond. Donc il a été sorti en état de mort apparent. Il a été massé et emmené à l'hôpital Percy. Et il est décédé à l'hôpital Percy. Alors, lorsque j'arrive dans la caserne, c'est compliqué. J'ai erré dans la cour. De toute façon, tout le monde errait à droite ou à gauche. On ne faisait rien. On tournait en rond comme... On était tous impuissants, on ne pouvait plus aller, ça ne servait plus à rien d'aller faire quoi que ce soit. Et ensuite, je suis monté chez moi pour prendre une douche et essayer de me détendre. Et en fait, quand j'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine, j'ai vu les officiers arriver. Et quand j'ai vu l'ampleur du nombre de véhicules qui arrivaient dans la cour de la caserne, je me suis dit, voilà, c'est pas fini, c'est que le début en fait. Ça va être long. C'est que le début. Il y a une cellule psychologique qui a été mise en place rapidement à la caserne. On est resté assez dans le mutisme. On est resté tous ensemble, soudés, mais à chaud comme ça, quoi dire. On se renferme dans une espèce de mutisme. Et avec la sidération de l'accident, on reste figé. Et le cerveau, il se déconnecte. Et c'est n'importe quoi, en fait. Les cauchemars, ils arrivent dans les 3 ans qui ont suivi. Au début, c'était pas les cauchemars, mais c'était des nuits hyper agitées. En fait, je faisais la galette toute la nuit, droite, gauche, les yeux en plein phare. C'était très compliqué. Après, j'ai commencé à faire des cauchemars. Dès que je fermais les yeux, je voyais le tas. Dès que je me retournais, j'ouvrais les yeux, je voyais le tas. Et c'était ça, la nuit, tout le temps. Donc ça a été invalidant parce que je dormais plus. Les gens vous disent, t'as eu de la chance, c'est ignoble. Parce qu'on a l'impression d'avoir volé la vie de quelqu'un. Ben c'est bon, t'es encore vivant. Oui, je suis encore vivant peut-être, mais physiquement, oui. J'étais en état de mort psychologique, hein, il n'y avait plus rien là-haut, hein, ça tournait plus. Hein. Il aurait peut-être mieux valu que j'ai une jambe cassée ou un bras cassé, et ça aurait été beaucoup plus facile à gérer, et je l'aurais peut-être digéré un peu plus facilement. J'ai commencé à devenir mais vraiment aigri, pas bien. Je suis allé consulter un médecin à l'infirmerie. Elle m'a dit, il faut que tu ailles voir un psychologue ou un psychiatre. Elle m'a pris rendez-vous à Percy. Ça s'est très, très, très bien passé. J'en ai fait à peu près deux ans de psychothérapie. Mais il est quand même un moment où les cauchemars se sont accélérés. Quand je me suis retourné, que j'ai vu le tas, cette image, elle est restée figée au présent. En 2009, les psychologues m'ont dit, écoute, ça va. Ils m'ont arrêté et les séances de psychologue et les médicaments. Ça allait. Bon, an, mal an, on dira que ça passe. J'ai quitté l'institution en 2010. En 2013, j'intègre le club d'athlétisme. Et en fait, il s'avère que la vice-présidente du club d'athlétisme est médecin. Et c'est là qu'elle a détecté sur une sortie extérieure que j'avais un problème d'hypervigilance. Pour moi, je ne m'en rendais pas compte, ça faisait partie de la normalité. J'étais totalement normal. Elle m'a attrapé à la fin, elle m'a dit « il faut que tu ailles voir une spécialiste ». C'est une praticienne en EMDR, et je ne connaissais pas du tout le terme, donc j'étais fouillé un peu sur Internet. J'ai pris sur moi, j'ai pris rendez-vous, j'y suis allé. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Là, je viens de la part d'un tel. Oui, c'est vrai. Tac, tac, tac. Revois l'image du tas. Tu penses à ça et tu regardes le bâton. Donc, en fait, le fait de revoir la photo et en même temps que les yeux suivent la baguette, ça dissocie, ça remet et ça fonctionne. Les jours suivants, ça a été alléluia, il n'y avait plus rien. J'étais libéré, délivré. C'est impressionnant. Depuis, j'ai été entre-temps responsable technique dans un centre cardiologique et j'ai démissionné encore une fois pour me lancer dans le projet d'ouvrir un centre de réadaptation psychologique pour les sapeurs-pompiers justement victimes de stress post-traumatique et de burn-out opérationnel. On se crée une carapace parce qu'on ne peut pas pleurer à chaque intervention. Dès qu'on voit un mort, un enfant, peu importe, on ne peut pas pleurer. Nous, on est les buvards de la société. Quand il n'y en va pas, les gens appellent les pompiers, même si c'est pas grave. Eux, leur exutoire, c'est nous. Nous, où est-ce qu'on exhorte tout ça? Nulle part. Donc, on se forge une carapace. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Le fardeau, il est lourd à porter, quoi.
C'était Pompier en stress, un reportage d'Antoine Guérimont réalisé par Somaya Dabèche. Merci bien sûr aux deux pompiers qui ont accepté de témoigner à Eric et Stéphane. Attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello. Shall I say is calm?